Donc, merci à tous d'être présents ce soir pour assister ou pour participer au débat du quatrième opus de la 14e édition de notre festival Cinéma et Droits de l'Homme, sous une forme très particulière, évidemment, en ces temps de Covid. En ce sens qu'au lieu d'être en salle comme les 13 années précédentes, nous proposons le visionnage des films en VOD, en vidéo à la demande, suivi en fin de semaine, le samedi, par ce débat en non présentiel sur Zoom. Notre festival toulousain, et plus généralement en Midi-Pyrénées, est organisé depuis 14 ans maintenant, 14 années, par un collectif qui réunit différents partenaires, Amnesty International, le CCFD Terre Solidaire, l'École des droits de l'homme, Médecins sans frontières, les Amis du monde diplomatique et Médecins du monde. Je représente ce soir Médecins du monde. Très rapidement, notre objectif, c'est de présenter des films dédiés aux différentes problématiques liées à la défense et à la promotion des droits humains. Notre but étant évidemment de sensibiliser, d'informer les gens et d'échanger avec des personnes expertes, comme on dit, quant au sujet traité. Nous ne pourrons pas passer cette année tous les films que nous avions prévus en vidéoconférence et notre partenaire, la plateforme des Mutins de Pangée, nous a aidés à choisir ce qu'il pourrait proposer parmi le programme que nous avions préparé. Ce soir, nous allons donc organiser ce débat en prenant prétexte du film qui s'appelle Effacer l'historique de Gustave Kerven et Benoît Delépine, film sorti en 2020. Il traite sous une forme particulière, on peut dire humoristique et un peu absurde, de l'impact des GAFA, les géants du web, sur nos existences en général et en particulier sur celles d'anciens gilets jaunes. Pour ce faire et pour nous aider à débattre, nous avions invité deux personnes, mais malheureusement, l'une d'entre elles vient de se désister. Mais nous avons cependant l'honneur de recevoir Nikos Ioannaios, qui est maître de conférences en sociologie à la Fac de Toulouse, qui va se présenter plus précisément. Nikos est particulièrement versé dans l'étude des GAFA. Nikos, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement, enfin rapidement, sérieusement?
Oui, merci tout d'abord pour l'invitation. C'est un plaisir de participer à ce festival, malheureusement à distance, mais bon, vu le contexte, c'est bien quand même que ça se déroule comme ça. Donc, je m'appelle Nikos Mernios, je suis maître de conférences. Je précise que mon domaine, c'est ce qu'on appelle à l'université sciences de l'information et de la communication. Donc, je travaille depuis une vingtaine d'années, on va dire, depuis ma thèse sur la question des usages sociaux et la socio-économie du numérique en général, avec une focalisation plus spécifique sur les médias. Et c'est vrai que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les GAFAM contre l'Internet, dans lequel je faisais une critique de l'économie politique de ces acteurs monopolistiques. Et j'ai aussi également participé avec mes collègues du laboratoire d'études et de recherches appliquées en sciences sociales à l'Université Toulouse 3, à la confection de plusieurs rapports de recherche sur le mouvement des Gilets jaunes, où on a étudié notamment leurs usages de réseaux sociaux numériques, comme Facebook par exemple, mais aussi la couverture par la presse.
Ok, merci. Alors, Effacer l'historique n'est pas un film tout à fait consensuel. Certains l'adorent, d'autres ne l'aiment pas. N'empêche, il traite de problèmes capitaux qui interrogent la citoyenneté face au monopole numérique hyperpuissant, au contrôle de nos données personnelles et peut-être à un certain formatage de nos comportements sociaux. C'est aussi un film dans lequel on peut acquérir un antivirus gratuit à 14 euros par mois, ou dans lesquels les abeilles tombent comme des mouches. C'est pour parler du ton du film que je dis ça. Vous pourrez participer au débat, évidemment, poser des questions, soit oralement, je pense qu'on n'est pas trop nombreux, donc on va pouvoir faire comme ça, comment dire, en vous signalant comme voulant comment dire, parler, hein, où il faut aller sur le petit icône qui s'appelle Réaction et cliquer sur Lever la main. Vous voyez, donc la main s'est levée chez moi et donc voilà, je vous demandais la parole comme ça. Ou sinon, vous pouvez aussi poser des questions sur le chat, hein, en écrivant directement votre question. Bon, pour lancer la discussion ou la présentation, je demanderai à Nikos donc en quoi, selon lui, ce film particulier pose bien ou pas d'ailleurs le cadre des phénomènes que nous allons étudier, que nous allons débroussailler, pardon. Nikos, tu peux voilà. À vous.
Oui, merci Philippe. Donc déjà pour commencer, puisqu'on est discussion, on va dire, un peu informelle entre nous, Je tiens à faire remarquer que j'ai aimé les films. Peut-être que d'autres personnes ici, ce n'est pas le cas, on pourra en discuter. C'est quand même intéressant de parler de ce type de ce genre de film, de cette approche-là. Moi, j'aime bien cet humour un peu caustique de Caverne et de Lépine, et j'aime beaucoup aussi leurs autres films. Et je trouve, alors je ne suis absolument pas spécialiste de cinéma, évidemment, mais je trouve quand même qu'ils ont une façon de traiter leur personnage avec à la fois un regard dur, parce qu'il y a quand même un regard dur sur les personnages, sur leurs aspects loufoques, absurdes, etc., mais aussi avec beaucoup de tendresse. Donc on voit bien qu'effectivement, c'est une approche qui se met au niveau de personnages qui s'insèrent dans leur vie quotidienne. Et c'est ça qui m'a moi le plus plu dans le film, notamment par rapport à la question du numérique, parce que en fait, il y a plusieurs questions qu'on peut. Il y a plusieurs thèmes, on va dire, dans le film. Il y a effectivement le thème des technologies numériques. Mais il y a aussi, petit à petit, on apprend que ces gens-là étaient des gilets jaunes, qui se sont rencontrés dans leur rond-point. On voit qu'ils ont une certaine nostalgie du lien social qu'ils ont créé à ce moment-là et qui sont en train de perdre. Donc, il y a aussi la question des gilets jaunes, des effets de ce mouvement, que ce mouvement a pu avoir dans certaines couches sociales. On pourra peut-être évoquer cette question, même si Pierre n'est pas avec nous. Il aurait pu porter un regard là-dessus. Pour ce qui est de la question du numérique, moi, ce que j'ai aimé, en fait, dans le film, c'est sa façon d'aborder toute une palette des questions sur lesquelles je reviendrai après, mais en se mettant à un niveau des gens, c'est-à-dire que il montre en fait comment ces technologies aujourd'hui s'immiscent finalement dans leurs rapports sociaux, dans leurs rapports économiques, dans leurs rapports familiaux, dans leurs rapports amoureux, parce qu'on a la question de la sextape évidemment qui est centrale, et comment à la fois ces technologies viennent, disons, compléter, on va dire, un système socio-économique qui se développe par ailleurs, puisque ces technologies ne sont pas elles-mêmes à l'origine du système économique, du capitalisme néolibéral qui nous entoure. Mais évidemment, comme tu l'as dit, dans un rapport dialectique avec la question sociale, elles influent aussi sur notre façon de faire, sur notre façon de s'exprimer, à la fois publiquement. Donc c'est la question de la citoyenneté que tu as soulevée. Comment on s'exprime dans l'espace public, comment on développe un mouvement social, par exemple, mais aussi dans la plus grande intimité, voilà, comment on devient un réalisateur pour de photos ou des films pour vendre son canapé, par exemple. Ça, c'est des choses, je pense, que tout le monde ici a vécu. Donc, pour essayer un petit peu de regrouper les différents thèmes que je trouvais intéressants dans cette introduction brève que je vais faire, et puis après, évidemment, le mieux, ce serait de pouvoir en parler. Il me semble qu'une question qui est centrale dans le film et que moi je trouve particulièrement pertinente, c'est la question du travail. Il y a différentes manières dont le film aborde le travail. Il y a d'abord ce personnage, évidemment, qui est qui fait le travail de chauffeur pour Uber ou pour une société de ce type, et donc qui est à la recherche désespérée de sa quatrième, cinquième étoile, enfin décollée de la première étoile des évaluations. Là, on voit bien comment ces acteurs-là, en fait, sont venus quelque part remplir un vide en prenant acte du fait que des grandes parts de la population sont dans une situation précaire. Et donc, on leur propose, en échange de cette précarité, afin de pallier à cette précarité, on leur propose ce mirage de l'auto-entrepreneuriat, du fait d'être indépendant, d'être collaborateur, comme disent la novlangue managériale, mais sans préciser au départ, et ça, les gens y découvrent après, qu'ils soient des livreurs pour Deliveroo, des chauffeurs pour Uber, ils découvrent ensuite qu'ils sont complètement dépendants de ces applications et du dispositif technique, et en l'occurrence, de la manière dont ce dispositif technique va hiérarchiser les différents fournisseurs de services, puisque en fait, c'est l'application qui, en quelque sorte, devient leur patron et décide à leur place quel niveau de salaire, combien d'activités ils vont avoir, etc. Donc ça c'est vraiment très contemporain, et évidemment on reviendra, je pense, mais la situation des pandémies n'a fait que renforcer l'emprise de ces acteurs. On le voit avec les livraisons des repas à domicile, etc. La deuxième question qui est liée au travail, au-delà des situations individuelles de personnages, je pense que c'est qui est très intéressante, c'est cette question du travail invisibilisé par le dispositif technologique. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ces acteurs, les GAFAM, les gros acteurs du numérique, ont envie, leur stratégie consiste à nous faire croire que finalement, derrière leur modèle économique, derrière leur réussite économique, se cachent des business models miraculeux, des modèles économiques miraculeux qui sont fondés sur des technologies de haut vol, l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais en fait, quand on regarde bien, on se rend compte que derrière ces modèles économiques, au-delà des technologies qui sont effectives, qui existent évidemment, il y a aussi toute une exploitation des travailleurs. Et je fais référence notamment à cette voix qui, dans les héros principaux, Denis Podalydès tombe amoureux. Et donc, c'est une opératrice derrière une ligne téléphonique. Bon, il va découvrir en fait que c'est une intelligence artificielle, mais en réalité, c'est plutôt l'inverse qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire que nous, quand on a affaire avec, par exemple, un dispositif de modération de contenu sur un réseau social, quelque chose qui va, par exemple, nous empêcher de publier une information et qui va censurer une information, on aura tendance à croire que c'est un algorithme, ce qui arrive, mais très souvent derrière, au bout de chaîne, on va trouver des vraies personnes en chair et en os, dont le travail, c'est un travail, ce qu'on appelle le travail de clic, qui sont en fait des modérateurs, qui font un travail répétitif, lassant, qui sont souvent dans les pays du Sud, en Inde, en Chine, au Madagascar, au Maroc, pour la France, qui sont souvent exploités, sous-payés, précaires. Et donc, le meilleur exemple, évidemment, de cela étant l'exemple d'Apple, qui sous-traite toute la production de ses produits électroniques en Chine communiste par ailleurs. Ça, c'est une question également intéressante. Donc, la question du travail est abordée de différents aspects, à la fois la question de l'exploitation de la précarité, mais aussi de l'invisibilisation d'une masse de travail qui se cache derrière la technologie, d'une masse de travail humaine. La deuxième, évidemment, question, c'est celle de la propriété des données, de nos données personnelles, mais je dirais au-delà de nos données personnelles, de nos données sociales. Parce qu'il y a une nuance à avoir entre données personnelles, nous, on raisonne en termes de données personnelles, évidemment, notre photo, nos rapports avec les autres, avec les photos qu'on peut publier, etc. Mais en fait, on se rend compte dans le cas de qui est en jeu là, c'est-à-dire la sextape de la fameuse sextape qui est donc hébergée dans un data center, on se rend compte que le plus souvent, ces données sont sociales, c'est-à-dire qu'ils ont lien avec, qui sont en lien avec une relation sociale, avec un rapport social. En l'occurrence, c'est un rapport amoureux, mais ça peut être une amitié juste sur Facebook, par exemple, entre deux personnes qui s'échangent des messages. Et ben, cette information-là va constituer une valeur qui va être stocké dans un data center, qui va être exploité commercialement. Et c'est l'interaction entre les individus qui a plus de valeur que l'individu, l'information sur l'individu seul. Et évidemment, ce qui est mis en scène dans le film, c'est à la fois l'appropriation de ces données par les géants du numérique, mais aussi un rapport de force complètement inégal entre nous et ces acteurs-là, entre chaque utilisateur individuel. Et c'est évidemment le but de la séquence où Blanche Gardin se rend aux États-Unis dans cet énorme data center qui appartient, on ne sait pas à quel acteur, probablement Google, et qu'elle dit, bah, il y a ma sextape dedans, je la veux. Évidemment, elle, face à ce mastodonte de technologie, on voit bien que le rapport il est complètement inégal. Donc, il y a la question de la propriété, mais il y a aussi la question du rapport de force qui impose en fait un type d'usage, un type d'exploitation de ces informations qui sont à la fois personnelles, mais aussi relationnelles, sociales. Il y a, je dirais, également une troisième question qui est importante. On en a parlé l'autre jour quand on préparait cette discussion, et je pense que c'est Jean-Pierre qui l'a mentionné. c'est la question de la dématérialisation des services et notamment la question de la dématérialisation des services publics, des démarches administratives, etc. Et là, il y a deux problèmes, je pense, qui sont posés. Le premier, c'est qu'on parle de dématérialisation, alors qu'en fait, ça n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, un formulaire PDF en ligne, donc évidemment, ça fait disparaître le formulaire papier, d'où l'idée de dématérialisation, mais évidemment, cette information va être stockée dans un data center, dans une grosse machine qui consomme beaucoup d'électricité, qui pollue, qui exige énormément de ressources, par exemple, de climatisation, de refroidissement, qui est fabriqué avec des minerais qui sont extraits en Afrique par des populations surexploitées. Donc en fait, la dématérialisation est complètement théorique. Il n'y a pas de dématérialisation, il y a juste un déplacement du matériel qui n'est plus visible entre nos mains, mais qui disparaît, mais qui advient quelque part ailleurs. Et le problème, c'est que ce déplacement de la matérialité, en quelque sorte, pose le problème du rapport de force, du rapport social qui accompagne le rapport matériel. Parce que des relations de travail, par exemple, peuvent donner lieu à des négociations quand elles sont circonscrites, quand elles sont visibles, quand elles sont circonscrites dans un espace politique cohérent. Mais par contre, quand ces relations disparaissent derrière des milliers de kilomètres, des câbles, implique différents pays, implique des populations dispersées dans le pays du Sud, etc., où il n'y a aucun rapport contractuel, par exemple. Je parle bien des gens, par exemple, qui peuvent traiter ces données derrière les machines. Évidemment, là, c'est très difficile d'établir un rapport de force politique tel qu'on le connaît dans le contexte classique du travail. La deuxième question, c'est celle du service public, puisqu'on a aussi des démarches évidemment qui se font en ligne aujourd'hui. Et l'argument toujours de cet état plateforme, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est la facilitation. Il faut faciliter, il faut rendre les choses fluides. On peut faire toutes les démarches de chez toi, donc on n'a pas à se déplacer. Mais évidemment, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à la fois cet état plateforme est accompagné par une privatisation du service public, parce que ça facilite le fait de faire appel à des sous-traitants, etc. On perd la trace finalement de qui est le fournisseur de services in fine. Et aussi, très important également, ça impose en fait aux individus, puisque la plupart du temps, ce sont des décisions imposées. Moi, j'ai l'expérience, je suis grec, donc j'ai l'expérience de la Grèce, où pendant la crise grecque, on a complètement imposé sans aucune discussion des démarches administratives, des déclarations d'impôts en ligne, ce qui est un point positif, disons, pour le contrôle de ces process-là, mais qui a été imposé sans aucune discussion et sans aucun accompagnement à la totalité de la population. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pénaliser les plus faiblement dotés du capital symbolique nécessaire pour utiliser ces outils, ou du capital matériel nécessaire pour être propriétaire d'un téléphone portable efficace, d'un ordinateur, et ainsi de suite. Donc on voit là ce qu'on appelle la fracture numérique qui s'aggrave, y compris au niveau des services publics. Enfin, une dernière question qui me semble importante. Enfin, il y en a encore deux que je voulais aborder rapidement. Il y en a une qui est importante, je pense, c'est le commerce électronique. Alors ça, c'est encore une fois, vous vous rappelez, à un moment donné, Blanche Gardin essaye de vendre son canapé, bon, alors elle prend des photos, etc. Et il y a différentes dimensions qui sont intéressantes dans cette séquence-là. La première, évidemment, c'est aujourd'hui la captation de tout le commerce, enfin d'une énorme partie du commerce, par des plateformes monopolistiques comme Amazon, par exemple, mais aussi d'autres plateformes comme Facebook Market, mais aussi Le Bon Coin, hein, qui appartient à un grand groupe des médias suédois, il me semble. Donc, il y a cette captation-là qui fait qu'aujourd'hui, et avec le Covid, et dans de plus en plus des transactions commerciales entre individus se font par les biais de ces acteurs. Et ces acteurs aujourd'hui ne sont plus de simples firmes, mais ce sont des marchés Donc, ils sont quasiment de propriétaires de marché. Donc, quand vous êtes un propriétaire d'un marché, bah forcément, tous les actants dans le marché sont obligés de se soumettre à votre loi. C'est le cas des individus, hein, qui sont obligés de suivre un certain nombre de normes, un certain nombre de process qu'on leur demande, mais aussi des petits entrepreneurs qui, de plus en plus, sont obligés de passer par ces plateformes-là, puisque le commerce électronique devient une voie centrale de commerce et d'économie. La deuxième question, c'est également tous les travaux gratuits que nous fournissons tous dans ce contexte-là, puisque évidemment, quand vous vendez un appareil ou un objet sur Internet, bah, vous devenez réalisateur, vous devenez marketeur, vous rédigez du contenu, et c'est la même chose évidemment sur tous les réseaux sociaux numériques. Donc, quelque part, vous générez de la valeur pour ces acteurs-là qui ne font rien à part fournir une infrastructure, donc ce qu'on appelle encore une fois du digital labor, du travail gratuit qui exploitait, dont ces acteurs ont tiré une valeur importante. Enfin, la dernière question, c'est peut-être la question, sûrement la question la plus politique. Bon, il n'est pas fait mention directement dans ce film, mais on voit bien que ces gens-là, donc c'est des anciens gilets jaunes, ils se sont rencontrés sur un rond-point. On s'aperçoit que ce sont des utilisateurs réguliers, voire un peu addicts hein, de ces technologies-là. Et là, on voit pendre derrière, même si c'est explicite, si c'est pas explicitement dit dans le film, le rapport ambigu qu'on entretient tous avec ces technologies-là, du point de vue de la citoyenneté, comme tu l'as dit, Philippe, au début, à savoir le fait que ces technologies sont ce que Bernard Stiegler, le philosophe, décédé il n'y a pas longtemps, appelé un pharmacon, ce terme grec qui désigne à la fois le médicament et le soin, en fait, en quelque sorte, enfin, le poison, pardon, donc le médicament et le poison. Donc, le pharmacon, ça peut être à la fois quelque chose qui nous tue et quelque chose qui nous soigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours cette ambiguïté de ces technologies numériques. Sans ces technologies numériques, le mouvement des Gilets jaunes, évidemment, n'existerait pas en tant que tel, par exemple. Et ça, il faut admettre que ces outils-là sont des outils qui permettent la démocratisation de la parole publique. Ça permet de constituer des réseaux d'individus qui ont des points communs et qui ne se connaissent pas, et ça permet de lancer un mouvement, ça permet de structurer ces mouvements. Nous, on a étudié beaucoup, par exemple, la façon dont les Gilets jaunes ont mis en avant sur Facebook un contre-discours en disant, justement, en répondant en fait aux accusations médiatiques du début, qui consistaient à dire oui, c'est des bofs, des ploucs. Qui décide d'effacer tel contenu, pour quelles raisons? Et à ce niveau-là, l'Union européenne est pas mal en pointe. Puisqu'elle a sorti deux documents, un sur le marché numérique et un autre sur les services numériques. Et dans la partie services numériques, elle propose des dispositifs qui peuvent rendre beaucoup plus transparent le fonctionnement de la modération et du contrôle des contenus, en faisant en sorte qu'il y a des tiers qui interviennent, en faisant en sorte qu'on puisse suivre, si jamais il y a un signalement de notre compte, on est suspendu, qu'on peut suivre la procédure. Donc, il y a des actions dans ce sens. Et moi, je trouve que l'affaire Trump est très intéressante parce qu'il faut savoir que quand ces plateformes ont décidé de suspendre Trump, elles l'ont fait non pas parce qu'elles se sont réveillées un matin et elles ont trouvé une conscience démocratique, mais c'est parce qu'ils ont subi une énorme pression externe et interne, y compris à l'intérieur de ces entreprises. Il y a eu des grèves. Il y a eu des manifestations, il y a eu des lettres, des pétitions. Et donc, c'est cette pression-là du mouvement social et de leurs salariés qui a abouti à cette décision. Donc, quelque part, on peut tous, dans le cadre collectif de notre organisation, de nos organisations collectives, mais aussi individuellement, peser sur cette régulation.
Je pense que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en réalité, par rapport à leur puissance et au nombre de gens dont ils impactent l'existence, en fait, c'est des entreprises qui ont assez peu de salariés. Je crois que c'est 300 000 salariés en tout pour les GAFAM. C'est pas
Alors, en
ça?
réalité, alors, ils ont très peu de salariés en interne parce
Ouais.
qu'ils externalisent le maximum de possible. Donc, vous avez par exemple Apple à 80 000 salariés. ou 100 000 salariés. C'est la plus grosse entreprise au monde en termes de capitalisation boursière, mais elle ne fabrique, elle est propriétaire d'aucune usine, parce que les usines sont en Chine et c'est son sous-traitant qui a 1 million de salariés chinois qui fabriquent les ordinateurs. Donc, c'est comme ça, effectivement, qu'ils apparaissent comme ayant peu de salariés. C'est parce qu'ils arrivent à externaliser au maximum. Mais aujourd'hui, ces salariés-là, si vous voulez, il fut un temps où c'était le rêve de travailler dans ces entreprises qui représentaient les modèles les plus progressistes et plus en avance. Donc, il n'y avait pas une conscience de classe, il n'y avait pas une conscience du travailleur à l'intérieur de ces entreprises. Aujourd'hui, ça commence. Évidemment, ça vient lentement, mais par exemple, il y a le premier syndicat qui a été créé en décembre chez Google, à 22 ans après la création de l'entreprise. Vous imaginez, pendant 22 ans, il n'y a pas un seul syndiqué au sein de l'entreprise. Donc bon. Mais ça finit par arriver. Et donc, il commence à avoir ce type d'initiative qui montre bien que ces entreprises se normalisent aussi quelque part. Hein, donc,
Oui, on a d'autres questions sur BlaBlaCar ou Doctolib. Quel est le risque qu'il représente? Faut-il un contrôle citoyen sur ces outils
Alors,
ainsi?
je ne suis pas spécialiste de ces applications-là. Ce que je peux dire, c'est qu'on voit, donc ça, c'est à l'échelle française, hein, puisque là, on parle de deux entreprises françaises, on n'est pas du tout à une échelle de GAFAM, même si ce sont effectivement deux cas de start-up françaises qui ont très bien réussi. Alors, moi, je vois plusieurs problèmes dans ces cas-là, dans ces deux cas-là qui sont évoqués, BlaBlaCar et Doctolib. Pour BlaBlaCar, je vois un premier problème, qui est la marchandisation d'un rapport social. Parce qu'il faut se rappeler ce que c'est le covoiturage au départ. C'est des gens qui se mettent ensemble et puis covoiturent parce qu'ils pensent que c'est bon pour l'environnement. Ils partagent les frais, c'est pratique pour tout le monde, etc. Et là, on voit une plateforme qui arrive. C'est exactement le même dispositif que Airbnb ou Uber. Et donc, cette plateforme-là, elle va marchandiser la relation, puisque la relation de deux individus qui autrefois se trouvaient via une amitié commune, etc., et qui partageait un covoiturage, devient un business. Ce business consiste en fait juste en une plateforme numérique, parce qu'il n'y a pas de moyen de transport de BlaBlaCar, même s'ils ont essayé des bus, etc. Et cette plateforme va baisser les coûts des transactions, va faire en sorte qu'on peut se mettre à covoiturer avec n'importe qui, mais pendant ce temps-là, va marchandiser la relation, puisqu'elle va trouver, elle va tirer une plus-value qui va rémunérer des actionnaires. Ça, c'est le premier problème. Est-ce qu'on a intérêt à ce que tous nos rapports sociaux soient marchandisés, y compris le rapport de voisinage? Parce qu'aujourd'hui, vous avez notamment aux États-Unis, vous avez des applis qui mettent ensemble des voisins. Vous avez des applis pour des gens qui vont faire des courses, qui vont faire les passages, etc., etc. Bon. C'est une question que je pose. La deuxième question, c'est qu'il y a une anecdote dont je me rappelle très bien. Au moment de la dernière grosse grève de la SNCF, qui était en 2019, si je ne me trompe pas, ça passe vite, 2018 plutôt. Bon, il y avait à un moment donné donc, des grèves dans le train, et moi, je me suis retrouvé dans la rocade de Toulouse, et j'ai vu un énorme panneau sur l'autoroute qui disait... Pensez au covoiturage. Pendant les grèves, pensez au covoiturage. Donc en fait, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, le propriétaire d'autoroute pense à nous au moment des grèves. Et puis après, j'ai découvert en fait que c'est les mêmes actionnaires. Je sais plus quelle entreprise c'est, mais une grande entreprise française, quoi, multinationale, qui est à la fois actionnaire des autoroutes de Toulousain et de BlaBlaCar. Donc on voit bien que là, on va utiliser BlaBlaCar comme moyen en fait de casser la grève et de se faire un profit. Donc c'est pas neutre. Pour Doctolib, oui, c'est Vinci. Merci beaucoup à Denise. Pour Doctolib, là, il y a un autre type de problème, puisque ce type d'application pose d'abord un énorme problème en ce qui concerne la collecte des données, puisque faut savoir que Doctolib, donc, vous prenez un rendez-vous avec un médecin. Il a cette information-là et aujourd'hui, on ne peut pas vraiment précisément savoir, peut-être Philippe, tu as plus d'éléments là-dessus, mais est-ce que par exemple, quand un médecin qui prend des rendez-vous sous Doctolib, est-ce qu'il a la capacité, ou un médecin, ou une industrie pharmaceutique, ou une clinique privée, est-ce qu'ils peuvent acheter ces données qui nous disent sur des millions de personnes quels rendez-vous ils ont pris, à quel moment, avec quel type de médecin, etc. Donc ça, c'est une base de données qui a énormément de valeur. Et c'est encore pire, si vous voulez, puisque aujourd'hui, l'État français a délégué, en fait, l'organisation de la vaccination auprès de Doctolib. Moi, j'ai eu une expérience désagréable quand j'ai voyagé en Grèce, j'ai voulu me faire tester, dépister pour la COVID. J'ai appelé un laboratoire qui, je savais, prenait des rendez-vous et les personnes au téléphone ont refusé de prendre mon rendez-vous. Elle m'a renvoyé avec Doctolib. Or, j'avais aucune envie, moi, de créer un compte sur Doctolib.
Oui, c'est
J'avais
effrayant.
la personne au téléphone et elle refusait de le faire. Donc, vous voyez, on nous oblige du coup de, parce que mon rendez-vous, il allait être noté sur un cahier ou je ne sais pas, sur une base de données locale. Et là, il s'est retrouvé sur la base de données de Doctolib avec mon nom, mon prénom. Bon, vous voyez, donc il y a des glissements comme ça qui sont très, très problématiques, il me semble, voilà, par rapport à ces deux outils précisément.
Alors, on te demande, je ne sais pas si tu as lu les questions. Il faudrait essayer d'inventer un contrôle citoyen sur ces outils, enfin Doctolib ou Blablacar, enfin ce type d'outils, mais voilà, c'est une question qui est
Oui,
posée
bien
par.
sûr. Bah, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure par rapport aux GAFAM. Ça vaut aussi pour ces acteurs, cette régulation politique démocratique que je demande en complément des alternatives. Parce que si on travaille que sur ces alternatives, ça veut dire qu'on laisse faire les acteurs principaux. Après, le problème de la régulation, ça c'est un point important que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Et c'est là où, par exemple, j'ai des désaccords avec François Ruffin, avec Jean-Luc Mélenchon, qui se sont offusqués de la décision de Twitter et de Facebook de suspendre Trump en disant, mais c'est pas ces acteurs-là de prendre ces décisions, il faut une régulation publique et blablabla. Bon, d'accord, mais ça veut dire quoi, en fait, une régulation publique? Concrètement, ça veut dire des lois. Qui c'est qui vote et qui applique les lois? Ce sont les gouvernements. Aujourd'hui, en France, on a un gouvernement qui est celui d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a déjà passé des lois, notamment une sur les fake news, qui est une loi de régulation des plateformes. Est-ce que cette loi est dans l'intérêt général? Absolument pas. Tous les experts, tous les groupements de journalistes sont contre cette loi. Pourtant, Macron l'a passée. D'accord? Donc, la régulation par la loi, c'est un enjeu politique. C'est bien quand on a le pouvoir, je veux dire, la gauche, quoi. Mais quand on l'a pas, bah c'est les autres qui vont imposer la loi. Donc moi, je suis très sceptique, c'est mon côté libertaire, si vous voulez, sur le pilier public qui est un peu la recette qui est ressortie comme ça de manière automatique par la gauche souvent, sans trop savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cette régulation, qui c'est qui l'a fait? Parce que si c'est l'État, bah, l'État, moi, ça me pose problème. Donc, il faut une régulation citoyenne, mais cette régulation citoyenne peut se faire autrement et peut prendre une forme, et c'est là où on peut polémiquer un peu, peut prendre également la forme d'une autorégulation des acteurs sous la pression, par exemple, de leurs utilisateurs. Il y a très souvent aujourd'hui, quand Twitter va suspendre un compte de gauche, par exemple, ça arrive, des féministes récemment, etc., il est obligé de le rétablir sous la pression des utilisateurs eux-mêmes qui gueulent. Ça, c'est une forme d'autorégulation de la communauté. Bon, est-ce que c'est une loi qui doit dicter ça? J'ai des doutes. Vous voyez? Donc, voilà. Très vite, je vois donc alternative à Twitter, effectivement, il y a Mastodon. Mais le problème avec Mastodon, c'est le problème que j'expliquais tout à l'heure. C'est qu'on peut aller sur Mastodon, c'est très bien, mais on va se retrouver entre gens comme nous. Donc, on n'aura pas forcément une influence dans l'espace public. Et on va se couper de tout un tas de réseaux qui sont utiles, quoi. Et pour la question de alternative à Zoom, oui, il y a une alternative qui s'appelle Big Blue Button, au moins une, et il y en a plusieurs, mais celle-là, elle marche plutôt bien, qui est du logiciel libre et qu'on peut utiliser avec son propre serveur, etc. Et il y a Zitsi aussi, ouais, effectivement.
Alors, il y a une question que je trouve intéressante, si tu veux bien, c'est que qui dit textuellement, peut-être que l'on découvrira un beau jour que des conférences ont été enregistrées et visionnées à nos dépens. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire qu'effectivement, on peut toujours imaginer, enfin, il me semble, qu'un État totalitaire prenne le pouvoir et que tout ce genre de choses soient effectivement exploitées pour nous contrôler et nous contrôlés politiquement et désigner les gens qui sont déviants par rapport à la pensée qu'ils auront. Enfin, tiens, le gros problème, c'est
Oui.
la confidentialité de tout ce qu'on fait actuellement, maintenant, partout. Et en plus, on est vraiment dans un système où il y a le bien et le mal qui s'affrontent. On voit bien que les réseaux sociaux ont été extrêmement importants dans plusieurs pays pour combattre les dictatures, en Iran, en Birmanie, au Maghreb, enfin, en Algérie, etc., etc. Voilà.
Alors,
Enfin,
c'est oui, c'est là, je pense que le concept de pharmacon que j'ai évoqué tout à l'heure, il convient très bien parce que
exactement.
on a par exemple des études pour la Tunisie précisément qui montrent comment, et l'Égypte aussi, comment ces outils, évidemment, ils ont contribué à créer le printemps arabe. Donc, ils ont été à l'origine quand même d'une révolution. Enfin, ils ont facilité cette révolte. Mais en même temps, c'est par les biais de ces réseaux que les régimes on peuvent repérer les personnes voilà, qui sont au cœur de ce mouvement et les réprimer. Donc, ce que tu as dit tout à l'heure, on y est déjà. C'est-à-dire que déjà, les États utilisent à grande échelle les données qu'on produit en ligne pour à la fois repérer des mouvements d'opinion, dire par exemple s'il y a une gronde qui monte sur tel ou tel domaine, ce qui est très complémentaire avec les sondages. En fait, on les utilise comme des sondages aujourd'hui. Et moi-même, je fais des études comme ça, hein. C'est-à-dire qu'on peut récolter, moi j'ai récolté 2 millions de tweets sur Raoult, par exemple, sur professeur Raoult et la chloroquine. On a fait une grosse étude sur ça. On a pu identifier les communautés des gens qui étaient pour ou contre Raoult. Et d'ailleurs, je vous donne en avant-première les résultats. Les supporters de Raoult sur Twitter sont essentiellement des gens de droite et d'extrême droite, contrairement à ce qui a pu être dit ailleurs. Bon. Mais si moi je le fais en tant que chercheur indépendant d'un petit labo toulousain, vous imaginez ce que fait la gendarmerie, voilà, et même la CIA, l'FBI, ils font ça tout le temps. Alors, ils peuvent faire ça avec des méthodes qui n'impliquent pas la collaboration des GAFAM, comme nous, mais ils peuvent le faire aussi puisqu'ils ont accès directement aux GAFAM. Et une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des relations directes et stratégiques entre les gouvernements, les États et les services de police, y compris en France, et les chefs de ces entreprises dans les pays en question. Le patron de Facebook France s'appelle Laurent Sauly. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Laurent Sauly. Non?
Non.
Rien? Non. Laurent Sauly, en fait, a commencé sa carrière en 2005, en tant que conseiller de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Donc, il s'est trouvé du ministère de l'Intérieur, il est passé à la tête de TF1 ensuite, une fois que Sarkozy a dégagé de la présidence, et il a fini chez Facebook. Bon, quelles compétences il a pour gérer cette entreprise? Aucune. Ce n'est pas un technicien, ce n'est pas un informaticien. Par contre, qu'est-ce qu'il connaît? Ben, les jeux politiques. Donc, qu'est-ce qu'il sait faire, monsieur Laurent Sauly? Il sait répondre au téléphone quand le ministre de l'Intérieur l'appelle ou la police appelle ses inférieurs et ils disent, par exemple, vous me descendez de cette page parce que c'est de l'incitation à la haine. Et tout ça se passe en dehors de toute procédure judiciaire, de manière informelle. Donc, c'est acté aujourd'hui. Et les gros problèmes de ces plateformes, c'est qu'elles centralisent les données. C'est qu'évidemment, si on était dans un monde où il y avait 10 000 des services, on était éparpillés là-dedans, ça serait beaucoup plus compliqué. Mais aujourd'hui, il suffit d'aller sur Facebook, il suffit d'aller sur Google pour avoir des données sur tout le monde. Donc c'est à la fois leur utilité et leur problème. Donc oui, la surveillance d'État, elle existe. Et il faut savoir un autre petit point, et après, je vous laisse la parole. Il faut savoir que toutes les méthodes de propagande politique qu'on observe sur Internet, toute la propagande qu'on a vue au moment de l'élection de Trump, tous les faux comptes, la désinformation, tous les dispositifs qui ont comme objectif de influer sur l'opinion publique avec des moyens malhonnêtes, ils utilisent des méthodes qui, à l'origine, sont conçues pour la publicité. Donc, au départ, on retrouve encore une fois le modèle publicitaire. La campagne de Cambridge Analytica en faveur de Trump ou en faveur du Brexit n'a fait simplement que mettre en œuvre des méthodes qui sont conçues au départ pour nous vendre, je sais pas, des savonnettes ou pour nous vendre des bagnoles, quoi. Donc il y a une donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une coexistence, un lien intrinsèque entre propagande politique et propagande marchande, publicitaire, collecte des données, exploitation des données à des fins commerciales et exploitation des données à des fins de surveillance politique.
Ok, tu vois la question de Corinne Bondue, une chose là, qui réfléchit à un système de plateforme de concentrés de petites unités autorégulées, connectées en réseau, qui respecterait une charte.
Alors oui, bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord avec cette architecture décentralisée. Ce que j'essaie de dire, c'est très simple, c'est que ce n'est pas demain qu'on aura 2 milliards d'individus sur Mastodonte ou sur une plateforme décentralisée. Donc qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce qu'on arrête d'utiliser Internet? Moi, cette question-là, elle est sérieuse. Je ne ris pas quand j'ai dit ça. Est-ce que, par exemple, on a besoin d'un smartphone? Moi, ma réponse personnelle, c'est non. Je n'ai pas de smartphone. J'ai un ordinateur. Bon. Mais cette question radicale qui consiste à dire, en fait, on peut complètement se passer d'un certain nombre des technologies et d'outils, et c'est une question sérieuse. Je la prends au sérieux. Mais en attendant d'avoir des plateformes alternatives, en attendant d'avoir les lois idéales qui vont nous tomber du ciel quelque part, etc. Bah, il faut qu'on agisse à la fois individuellement, collectivement, à l'intérieur, à l'extérieur de ces plateformes, à l'intérieur de ces plateformes, pour les pousser dans le sens qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si on résiste aux pollueurs, si on, par exemple, on met la pression sur l'industrie de la voiture, ou si on met la pression sur la grande distribution pour avoir des meilleurs produits. Ce n'est pas parce que notre idéal, c'est Carrefour, hein, mais c'est parce qu'on sait que Carrefour, c'est un endroit où Auchan ou autre, c'est un endroit où des millions de gens se nourrissent. Donc, quelque part, c'est dans la même logique. À mon sens, il faut se battre sur tous les fronts. Et tous les fronts, ça implique aussi d'être dans la bagarre, y compris dans les plateformes.
Il y avait une question, pardon Denise, qu'on avait oubliée tout à l'heure, à propos de Gaspard et Linky. Denise demandait où vont les données captées et quelles exploitations futures.
Je n'ai aucune idée.
C'est un peu ce que. Pardon. Alors, autre question, alors fort intéressante, je trouve l'autorégulation est une belle idée, néanmoins a lamentablement échoué concernant par exemple Wikipédia. Est-ce qu'on peut dire ça? Je ne suis pas sûr.
Non, moi je ne dirais pas ça. Alors, je comprends la remarque. Alors, l'exemple de Wikipédia, en fait, il est très intéressant. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est aujourd'hui le seul site, la seule plateforme des grandes envergures, d'envergure mondiale comparable, en fait, qui a un trafic, une audience comparable aux GAFAM et qui soit non marchande, c'est-à-dire qui n'a pas d'objectif commercial, d'une part, qui soit participatif et qui soit autorégulé dans le sens où les instances de gouvernance de Wikipédia sont élus, enfin ce sont des utilisateurs. Bon. Après, on a un gros problème dans Wikipédia et dont la qualité de contenu, elle est très bonne. Aujourd'hui, il y a eu une époque où on mettait en question, bon, mais aujourd'hui, toutes les études scientifiques montrent que la qualité du contenu de Wikipédia, en général, hein, en moyenne, est très bonne. Et le plus on est sur des articles populaires, qui vise le grand public, la meilleure est la qualité. Le problème se situe pour Wikipédia au niveau de la gouvernance. Parce qu'effectivement, il y a une sorte de bureaucratie qui s'est créée, une sorte de nomenclature bureaucratique au sein de Wikipédia. Et effectivement, aujourd'hui, pour faire partie de énormément de conflits dans la fondation entre les différents partis, etc. Et aujourd'hui, effectivement, pour faire partie de ceux qui décident de l'avenir de Wikipédia, il faut être un gros bureaucrate, il faut consacrer sa vie, etc., etc. Donc, il y a un dévoiement, évidemment, aussi du principe. Mais pour moi, c'est un exemple qui au moins est un exemple qui montre que c'est possible de créer une expérimentation de ce type et qui devienne mainstream. Et je préfère mille fois Wikipédia que, je sais pas moi, que Instagram, par exemple. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais je veux dire. Mais malgré ses défauts, il me semble que le modèle de Wikipédia est supérieur à celui des
Oui,
plateformes
moi
centralisées.
je dirais une expérience sur Wikipédia que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup, toujours avec un esprit critique, il faut toujours regarder, mais qui demandaient de l'aide financière et leur système pour payer, ça marchait pas. C'était quand même assez rigolo. Ça marchait pas du tout. Hein. Bon, j'ai fini par réussir à payer un peu, mais au début, quand j'ai essayé, ben, je ne voulais pas donner des grosses sommes, des sommes de soutien, quoi, ça marchait pas.
Mais c'est le seul exemple aujourd'hui d'un site qui a une telle audience, on parle de millions, milliards de pages consultées dans le monde, qui ne soit pas financé par la pub. C'est quand même
Oui.
un point important.
Quelqu'un repose des questions sur Zoom qui veut remettre en question. Jutta, nous ne sommes pas sur Big Blue Button, dit-elle. Zoom, le problème, c'est que ça marche très bien, donc voilà.
Ouais. Mais nous, on use et on abuse de Zoom à l'université. Mais on utilise aussi de BigBlueButton également.
Moi, j'ai quand même une question. Après, on reviendra sur les autres à propos, parce que tu parlais de ma profession. Donc, c'est vrai que l'État, enfin, le gouvernement et d'autres veulent à tout prix tout numériser dans les hôpitaux, etc., etc. Et on peut quand même se poser la question, en dehors de souvent du vol des données qui sont des données personnelles, qui sont il y a très souvent des attaques dans tous les hôpitaux parce que les systèmes ne sont pas toujours très très safe. On commence d'ailleurs à avoir des Dans mon hôpital à Toulouse, on avait commencé à avoir un truc de data center assez étonnant aussi. C'est pas Google, mais ça m'avait fait peur, parce que je m'occupais un peu de ça. Mais je me pose quand même la question d'un grand bug. Parce que dans un hôpital, on voit très souvent, pas un grand bug, mais un bug conséquent. Est-ce que, si tu veux, un bug général est envisageable, qui ferait perdre toutes les données de tout le monde et qui du coup se dématérialiserait réellement?
Non, je ne pense pas, parce que les architectures actuelles de ce fameux data center sont fondées sur la redondance. Donc normalement, les données ne sont pas à un seul endroit. Elles sont à plusieurs endroits et souvent dans des réseaux qui sont séparés, justement pour éviter ce type de problème. Donc après, je ne suis pas technicien, mais à ma connaissance, c'est quand même un problème qui est pris en compte. Le problème, c'est plus la confidentialité de ces données et
Oui.
l'incapacité du service public d'assurer des missions qui sont de plus en plus complexes et qui font appel à ce type de données. Parce que forcément, quand on affaiblit les services publics, c'est comme avec l'histoire de Doctolib. Évidemment, si l'État dit bah, je suis incapable d'organiser la vaccination, on va se tourner vers McKinsey et vers Doctolib, on va dire, regardez, le privé, il fait les choses trop bien. Bon, bah oui, c'est sûr. Il les fait bien puisque l'État, les services publics n'ont pas les moyens de les faire. C'est plus de ce côté-là, il me semble, qu'il se trouve un risque. Mais bon, évidemment, un bug général n'est pas exclu, mais il est quand même très, très peu probable, il me semble, à mon niveau de connaissance. Il y a une remarque intéressante de Corinne, donc, qui parle effectivement de l'éducation. L'éducation, évidemment, c'est un volet très important sur lequel on n'est pas. Je ne me suis pas penché. Personnellement, j'interviens dans un master de la qui prépare des étudiants en concours d'enseignants et des documentalistes. Donc, c'est une dimension, l'éducation média numérique qui est très importante. Et voilà, on est nombreux à tenter de faire passer cela. Et effectivement, là-dedans, on peut inculquer de valeurs, de biens communs, de décentralisation, etc. Le problème, c'est que notre pouvoir, notre puissance de feu, en termes d'éducation, en termes d'école, en termes d'université, est faible finalement comparé, à la puissance de feu de ces acteurs-là. puisque évidemment les ressources du service public sont de plus en plus limitées. Les heures qu'on a par exemple consacrées à l'éducation aux médias sont de plus en plus se sont diminuées. Les professeurs documentalistes qui dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges assurent une grande partie de l'éducation aux médias ne sont même pas reconnus en tant que professeurs. Aujourd'hui, M. Blanquer a décidé de donner une prime et à exclure les professeurs documentalistes parce que selon lui, ils ne sont pas présents devant les élèves, ce qui est une grosse blague. Donc, voilà, si, évidemment, c'est une partie de la solution, mais pour cela, il faudrait un gigantesque effort qu'on n'a pas aujourd'hui. Et on a plutôt le contraire. On a par exemple des universités qui vont faire appel à Google pour gérer leurs mails. On a des écoles publiques qui vont faire entrer Facebook ou Google pour faire des formations. Donc en fait, et même, je me rappelle, il y avait un projet de formation des chômeurs en numérique d'État, quoi, qui était lié à Pôle emploi, il me semble, qui était sous-traité à Google, qui faisait ça gratuitement. Bon, évidemment, il le fait gratuitement puisque ça lui permet de capter des données, de capter une clientèle. Bon, est-ce que c'est le rôle de l'État de sous-traiter ça à Google? C'est toujours, on revient. C'est pour ça que, si vous voulez, pour peut-être aller vers une conclusion, moi, je suis mal à l'aise dans les discussions qui vont séparer le numérique du reste de la société et des problèmes politiques. Parce qu'on ne peut pas, à mon sens, c'est mon point de vue, ça se discute évidemment, mais à mon sens, on ne peut pas résoudre le problème du numérique comme on ne peut pas résoudre le problème écologique dans le cadre du capitalisme et plus particulièrement du capitalisme néolibéral ou post-néolibéral. Si on ne met pas en cause les principes qui régissent l'économie, la société et la politique aujourd'hui, mais dans le sens très large, on n'arrivera à rien. On ne va pas tout d'un coup, par magie, réguler les GAFAM, faire en sorte qu'on utilise tous des outils décentralisés, etc., alors que à côté, toute la société est sous l'emprise des financiers et de leurs amis, quoi. Bon. Donc, il est impératif de poser cette question dans le cadre plus large et de ne pas hésiter à mettre les pieds dans le plat, ce que je fais régulièrement, et dire, voilà, le problème, c'est le capitalisme. Ce n'est pas la technologie, ce n'est pas les outils, ce n'est pas les services en soi, c'est ce que le capitalisme en a fait. Bon, Jean-Pierre, il demande
Ton micro est coupé, Philippe.
Merci, Audrey. Jean-Pierre,
Bah,
comment
comment
expliquer que nos
expliquer?
politiques préfèrent équiper l'éducation nationale au ministère des Armées avec Microsoft alors que des solutions libres existent par ailleurs? Ça, effectivement.
Écoutez, moi je me rappelle la dernière fois où l'État français a fait un effort dans le bon sens. Je parle de l'État parce qu'après, il faut savoir que dans le service public, les gens, ils se débrouillent aussi. Ils ont une autonomie dans les établissements, donc on peut faire des choses. Mais la dernière fois, il y avait une politique générale, c'était sous Jospin, où on avait imposé, par exemple, le logiciel libre dans l'Assemblée nationale, dans un certain nombre d'administrations, etc. Où il y avait une vraie réflexion. Depuis, voilà, c'est open bar pour les GAFAM, open bar pour des raisons politiques évidentes. Je pense que la question de Jean-Pierre est plus rhétorique qu'autre chose. Il connaît la réponse.
Non mais c'est effrayant. Par exemple, moi je dois souvent faire des trucs pour l'éducation nationale, enfin pour mes enfants. Et en fait, les serveurs régionaux, par exemple, n'acceptent pas la connexion, enfin de travailler avec les Mac. Donc tu essayes de faire un truc de la carte jeune, je ne sais pas quoi. Si tu n'as pas un truc, un PC, sur Microsoft, ça ne marche pas. Hein. C'est quand même
Après, pour
étonnant.
ne pas finir sur une note complètement pessimiste,
Oui.
moi je dirais que je suis beaucoup en contact avec les jeunes. Je peux parler d'eux. Je pense qu'ils sont très conscients de ces enjeux. Alors, pas
Oui, ça
tous,
c'est sûr.
mais ils sont très conscients. Il y a des études qui ont été faites sur, par exemple, la gestion de leurs données personnelles, de leur image sur Internet. Ils sont très soucieux de ça. Ils ont une compréhension souvent limitée, mais quand même des enjeux. Alors le problème, c'est là où on retombe encore sur la question politique, c'est que toutes les enquêtes, par exemple, sur les usages numériques par les jeunes, montrent qu'il y a, pareil, un biais sociologique qui est lié au niveau d'études des parents, moyens dont ils disposent, etc. Donc en fait, paradoxalement, ce sont les plus aisés qui sont les plus protégés finalement, qui sont ceux qui font le plus attention. Mais il y a quand même cette problématique, ils les savent. Après, passer du savoir à la pratique, c'est compliqué, mais ils les savent. Et je vous donne un exemple qui montre que, en fait, finalement, le problème, ce n'est pas tant les gens, je pense, mais la réponse politique, on le propose. Pourquoi? Parce que regardez par exemple les bloqueurs de publicité, les bloqueurs de mouchards. Aujourd'hui, il y a 30 à 40% des utilisateurs d'Internet en France, c'est énorme, c'est gigantesque, qui ont installé un bloqueur de publicité ou un bloqueur de mouchard. Donc ça veut dire que 40% des pubs, soi-disant distribuées, ne sont pas vues par les gens. Donc ça, c'est énorme. Ça veut dire que les gens, un tiers au moins des internautes, ont bien pris conscience du problème et tentent de se protéger par eux-mêmes, par les moyens qu'ils trouvent. Le problème de ce type d'autorégulation, parce que c'est une forme d'autorégulation individuelle, c'est que comme il n'y a pas une réponse politique, c'est-à-dire comme il n'y a pas d'offre d'une instance qui serait inscrite dans l'intérêt général, etc., les gens ils se débrouillent avec les outils qu'ils trouvent et malheureusement, un outil comme AdBlock, par exemple, que peut-être que vous utilisez, que beaucoup de gens utilisent, en fait, ils bloquent des publicités, mais ils vendent des données à Google. Donc, on retombe sur le même problème, puisque c'est un acteur marchand. Donc, il faut bien qu'il se finance quelque part. Mais ça veut bien dire quand même que les gens, s'ils font la démarche, ils ont conscience du problème et qu'ils tentent par leurs propres moyens, en fait, de se défendre, quoi.
Ok, une dernière question peut-être, ou peut-être pas une dernière. Peut-on faire confiance, plus confiance à Quant, moteur de recherche français, je crois.
Alors, bon, Quant, comme la plupart des autres d'autres moteurs, à part Google, en fait, ce sont des méta-moteurs, c'est-à-dire effectivement, ils vont utiliser d'autres services type Bing et autres. Il me semble que Quant, c'est un des rares qui a son propre index qui est autonome. Le problème de Quant, c'est surtout que ses résultats sont mauvais, quoi. Donc,
Oui, c'est assez décevant en fait.
ouais. Il y a ce
Malheureusement.
problème-là d'efficacité. Il y a un moment donné, on. La grande force des acteurs dont on parle, c'est à la fois leur force de frappe financière, le fait qu'ils peuvent nous enfermer dans des écosystèmes qui font qu'il y a une dépendance des différents services, mais aussi que ça marche très bien. Donc évidemment, si ça ne marche pas bien, la plupart du temps, ça marche hyper bien. Donc ça nécessite un effort, ça nécessite une forme de sacrifice, si vous voulez, en tout cas un effort en temps et en énergie pour s'en débarrasser, pour s'en passer, etc. Ça, c'est sûr. Ecosia, c'est la même chose. C'est un méta-moteur qui trouve ses résultats sur Google. Donc, indirectement, il finance Google. Bon, après, je sais pas, il plante des arbres. Mais ce n'est pas fondamentalement un modèle différent.
Ok. Bon. Merci à tout le monde. Tu veux encore me donner un mot de conclusion ou t'en as marre de parler, peut-être, Nikos? Je ne sais pas.
Bah, je pense que le mot de conclusion, je donnais tout à l'heure en disant que le problème, c'est un problème politique, qu'il ne faut pas séparer les deux. Il faut prendre les choses ensemble. Les inégalités des revenus, la concentration du capital, l'exploitation du travail, tous ces problèmes-là sont absolument liés aux problèmes dont on est en train de discuter aujourd'hui. Et les problèmes dont on est en train de discuter aujourd'hui ne se résoudront jamais tout seul, si on ne touche pas aux autres dimensions qui sont aussi également sociales, politiques, écologiques.
Oui, mais moi je suis tout à fait d'accord, mais c'est quand même un peu des vœux pieux, on va dire des choses comme ça. Pieux, non, peut-être pas pieux, mais quoi.
Non, moi je le vois comme une lutte en fait. Donc c'est une lutte
Oui,
de tout le
d'accord.
temps. Donc ça n'arrête pas. Ça nécessite de l'organisation, de la détermination. Bon, c'est pas facile, mais il faut rester optimiste. Sur la dernière question, donc une petite astuce que je vous donne, c'est moi j'utilise actuellement un navigateur qui s'appelle Brave, qui est un navigateur libre et qui bloque toutes les publicités et qui est très efficace. Après, il y a Firefox que vous devez connaître aussi, qui est très bien. mais bref, moi, je suis assez satisfait.
Merci à tous. Grand, grand merci à Nikos pour la clarté, la matière et la précision de tes interventions. À bientôt à tout le monde. Bonne soirée et bon dimanche. Au revoir. Au revoir.